littérature,
cybernétique,
avenir,
prospective,
science-fiction,
liberté,
utopie.
We can face any future.
Any future.
Any future.
Le podcast des Utopiales. Utopiales 2021. Trois pages d'Ursula K. Le Guin. David Meulemans, Céline Minard, Laurence Suner.
Bonjour, bienvenue ce dimanche après-midi dans la salle CIC des Utopiales 2021. Nous sommes réunis pour chanter notre amour pour Ursula K. Le Guin. Je précise que nous ne chanterons pas en fait, mais voilà, c'était une métaphore. Je devrais m'abstenir d'utiliser des métaphores. Nous allons commencer par, en fait, l'exercice consiste à réunir romanciers, traducteurs, éditeurs, experts, universitaires, pour lire chaque fois une page d'un romancier ou d'une romancière, et après de réagir simplement à cette page. D'abord, la personne qui lit réagit, et après, on fait un petit échange en plateau qui nous permet de montrer toutes les portes d'entrée qu'il y a dans une œuvre. Donc la première personne qui va vous lire une page d'Ursula K. Le Guin, c'est Madame Laurence Suner. Laurence, c'est à toi.
Bonjour à toutes et à tous. Je me présente brièvement. Donc je suis Laurence Suner, auteure des éditions La Talente. J'écris principalement du space opéra ou du planète opéra. J'ai écrit une trilogie qui s'appelle Quantica et maintenant un diptyque, Zeusudra. Et j'ai découvert Ursula Le Guin assez tardivement. Et je me propose de vous lire un extrait qui est tiré de ce livre, qui est donc le Didaka, qui contient aussi également le roman qui s'appelle Le nom du monde est forêt. Et mon extrait est tiré de ce roman. Je propose de le lire. J'espère que je vais lire assez bien, j'espère. Hein, si jamais ça ne va pas, j'ai un peu. Voilà, bon. Pas l'habitude de lire en public. C'est un extrait qui fait 4 pages. Voilà, on pouvait choisir entre 1 et 4 pages, donc j'espère que vous allez supporter. Et puis voilà, donc je commence, je m'y mets. Je vous en parlerai ensuite. Donc par la suite, on va discuter de cet extrait, mais là, je me propose de vous lire tout de suite cet extrait. Cela faisait une heure que le vieux créate se dépêchait de lui apporter son petit déjeuner depuis la cuisine. « Allez, vite !» hurla Davidson. Et Ben s'efforça de transformer sa flânerie apathique en une marche normale. Ben mesurait environ 1 mètre de haut et la fourrure de son dos était plus blanche que verte. Il était vieux et stupide, même pour un créate, mais Davidson savait comment les manier. Il pouvait dompter n'importe lequel d'entre eux, si cela en valait la peine. Mais ce n'était pas le cas. Que l'on amène suffisamment d'humains ici, que l'on construise des machines et des robots, que l'on bâtisse des fermes et des villes, et personne n'aura plus besoin de créatures, de créates. Et ce sera une bonne chose, car cette planète, la nouvelle Tahiti, était littéralement faite pour les hommes. Une fois nettoyée, bien ratissée, une fois les forêts sombres rasées pour laisser place à des grands champs de céréales, une fois balayées les ténèbres primitives, la sauvagerie et l'ignorance, ce serait un paradis, un véritable Éden. Un monde bien plus agréable que cette vieille terre, tout usée. Et ce serait son monde, car Don Davidson était cela, tout au fond de lui-même, un dompteur de monde. Ce n'était pas un vantard, mais il connaissait ses capacités. Il était comme ça, voilà tout. Il savait ce qu'il voulait et comment l'obtenir. Il avait toujours obtenu. Le petit déjeuner lui atterrit bien chaud dans le ventre. Sa bonne humeur ne fut même pas gâchée par la vue de Keith Van Steen, qui s'avançait vers lui, gros et blanc, l'air ennuyé, les yeux saillants comme 2 balles de golf bleues. Don, déclara Keith sans même lui dire bonjour. Les bûcherons se sont remis à chasser le cerf rouge dans les bandes. Il y a 18 paires de bois de cerf dans l'arrière-salle du foyer. Personne n'a jamais pu empêcher les braconniers de braconner, Keith. Tu peux les en empêcher. C'est pour ça que nous sommes là, sous la loi martiale. C'est pour ça que l'armée dirige cette colonie, pour faire respecter les lois. Être attaqué de front par le gros prétentieux, c'en était presque drôle. D'accord, dit Davinson, d'une voix raisonnable. Je pourrais les arrêter. Mais écoute, ce sont les hommes que je dois surveiller. C'est mon boulot. Comme tu l'as dit, ce qui compte, ce sont les hommes, pas les animaux. Si quelques chasses illicites peuvent aider les hommes à supporter cette sacrée vie, je ferme les yeux. Ils ont droit à quelques loisirs. Ils ont des jeux, des sports, des passe-temps, des films, des télébandes de tous les événements sportifs majeurs depuis au moins un siècle, de l'alcool, de la marijuana, des halus, une nouvelle fourrée de femmes à centrale pour ceux qui ne sont pas satisfaits par les dispositions peu imaginatives de l'armée en faveur de l'homosexualité hygiénique. Ils sont complètement gâtés, tes héros, de la nouvelle frontière, et ils n'ont pas besoin d'exterminer une espèce indigène, rare, pour occuper leurs loisirs. Si tu n'interviens pas, je vais devoir signaler une grave infraction au protocole écologique dans mon rapport au capitaine Goss. Tu peux le signaler si tu crois que tu le dois, Keys, répondit Davidson, qui ne perdait jamais son calme. C'était presque pathétique, cette façon dont le visage d'un euro comme Keys pouvait rougir lorsqu'il perdait le contrôle de ses émotions. C'est ton boulot, après tout. Je ne t'en voudrais pas. Ils peuvent en discuter à Centrale et décider qui a raison. Tu vois, Keys, en fait, tu veux conserver cet endroit tel qu'il est, comme une grande forêt nationale protégée, qu'on pourrait regarder, étudier. Très bien, tu es un spé. Mais tu vois, nous autres, nous sommes de vulgaires troufions qui faisons le travail. La terre a besoin de bois. On en a un besoin urgent. On trouve du bois sur Nouvelle-Tahiti. Alors, on est des bûcherons, tu vois, en fait. La différence est que pour toi, la terre ne passe pas au premier plan. Et pour nous, elle passe avant tout le reste. De ses yeux bleus en balle de golf, Keys le regarda de travers. « Vraiment ? Tu veux faire ce monde à l'image de la terre, hein ? Un désert de béton ? Quand je dis la terre, Keys, je veux dire les gens, les hommes. Tu t'inquiètes pour les serres, les arbres et les herbes. D'accord, c'est ton affaire. Mais moi, j'aime bien voir les choses avec du recul, de haut en bas. Et le haut, jusqu'à présent, ce sont les humains. Maintenant, nous sommes ici. » Et ce monde devra marcher comme nous voulons. Que cela te plaise ou non, c'est un fait que tu dois regarder en face. Ainsi vont les choses. Écoute, Keys, je vais faire un saut à Centrale pour jeter un coup d'œil aux nouvelles arrivantes. Tu veux venir avec moi ? Non, merci, Captain Davidson, répondit le spécialiste en s'éloignant vers la cabane du labo. Il était vraiment dingue. Se fâcher pour quelques foutus cerfs. C'était des animaux, splendides, d'accord ? La mémoire précise de Davidson lui rappela que le premier cerf qu'il avait vu ici même, sur la terre de Smith, une grande ombre rouge, 2 mètres à l'encolure, une couronne de bois fin et doré, une bête courageuse et rapide, le meilleur gibier imaginable. Sur Terre, on utilisait maintenant des robots cerfs. Jusque dans les grandes rocheuses et les parcs de l'Himalaya, les vrais cerfs ayant presque tous disparu. Ces bêtes-là étaient un véritable rêve de chasseurs. Et ils étaient chassés, diable. Même les créates sauvages les chassaient, avec leurs minables petits arcs. Les cerfs seraient chassés parce qu'ils étaient là pour ça. Mais ce pauvre vieux cœur tendre de Keys ne pouvait pas le supporter. C'était pourtant un gars intelligent, mais pas réaliste, pas assez endurci. Il ne comprenait pas qu'il fallait miser sur le numéro gagnant s'il ne voulait pas perdre. Et c'est toujours l'homme qui gagne. Le vieux conquistador. Voilà.
Alors Laurence, pourquoi as-tu choisi cet extrait ?
Alors j'ai choisi cet extrait, j'en avais choisi beaucoup. Pourquoi j'ai choisi cet extrait en particulier ? Parce qu'il parle de ce qui nous arrive actuellement. En fait, faire simplement le lien avec la Terre. L'attitude humaine face à la nature et aux autres habitants de cette terre, les animaux dont on fait partie, mais aussi les plantes, les arbres, toute vie sur terre, dont on occupe l'espace sans penser à la destruction que ça inflige à ces espèces. Et je pense que c'est un passage qui est tout à fait en adéquation et qui est très précurseur, puisqu'elle l'a écrit, je ne sais plus quelle année elle a écrit celui-là, je crois que c'est dans les années 60, il me semble. Et déjà cette menace qui planait sur l'humanité, sur la Terre, de par l'attitude de l'humain. Et voilà, on peut en discuter, mais voilà la raison pour laquelle j'ai choisi cet extrait, parce qu'il m'a parlé, il m'a frappé, je me suis dit, mais rien de nouveau sous le soleil, en fait. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez en parler aussi, je peux en parler très longuement. Hein, mais...
Non, mais c'est un texte qui m'a toujours intrigué parce qu'il est très souvent cité, mais il a une caractéristique que Le Guin reconnaissait elle-même, c'est que d'un point de vue politique, entre guillemets, c'est un de ses textes les plus directs. Parce qu'actuellement, il y a un regain d'intérêt pour Le Guin, alors qu'il est toujours une romancière qui a été très respectée, mais en France notamment, il y a un regain d'intérêt sur Le Guin, qui s'appuie beaucoup sur Les Dépossédés et La Main Gauche de la Nuit, qui sont des romans parfois perçus comme politiques, mais qui sont en fait des textes qui ont une dimension politique, mais qui n'étaient pas pensés explicitement comme des dénonciations politiques par Le Guin. Et au contraire, le texte que tu viens de lire est extrait d'un texte qui, dans l'esprit de Le Guin, est une dénonciation directe, puisqu'en fait, un de ses points de référence dans ce texte, c'est le Vietnam, en fait, l'engagement américain au Vietnam. C'est-à-dire que Le Guin a une manière, elle est très radicale politiquement, mais elle aborde toujours les problèmes de manière très, comment dire, le terme de biais n'est pas tout à fait correct, mais c'est-à-dire elle les contourne. Et dans ce texte-là, elle aborde les choses très très, très très frontalement, ce qui lui donne un côté atypique et très, très puissant. En fait.
Mais il est quand même nuancé comme texte, parce qu'en fait, il n'y a pas de manichéisme non plus. C'est-à-dire que ce n'est pas manichéen. C'est-à-dire qu'on présente voilà, ces créatures qui vont se rebeller. On présente le point de vue de Davidson, qui est assez arrêté, on va dire. C'est vraiment un peu un cliché, on va dire, de personnage. Mais il y a quand même, vers la fin du livre, il y a toujours cette nuance. C'est-à-dire qu'on se met du point de vue des créates, puis on se met du point de vue des humains, et il y a toujours du bon dans les deux. En fait, c'est ce que moi j'ai remarqué dans tous les textes de Le Guin que j'ai lus récemment, c'est qu'il n'y a jamais le bon et le mauvais. C'est-à-dire qu'on présente les choses, et après c'est à nous de réfléchir, en fait, c'est à nous de poser en fait, où on se place par rapport à ce qu'elle dit. Mais il y a toujours beaucoup de nuances, même dans ce texte-là, qui est fait. Effectivement, j'ai choisi cet extrait parce qu'il est frontal, justement. C'est pour ça exactement que je l'ai choisi. Mais quand même, le roman, dans l'ensemble, est toujours nuancé. Il y a toujours les points de vue différents. Et elle nous expose les points de vue et à nous de réfléchir sur les points de vue, en fait. Et exactement dans
Oui, effectivement. C'est vrai que la manière dont je l'ai présenté était écrasée un peu la nuance du texte, parce que ça reste un texte de Le Guin.
C'est comme ça. C'est-à-dire oui. C'est un extrait qui Mais est
c'est
vraiment...
C'est un texte de Le Guin. Et c'est vrai que son... Alors, c'est lors d'une émission télé en 1980 qu'elle est interviewée par la télé publique américaine et qu'elle explique un peu sa manière de procéder. Et elle explique qu'en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a souvent une idée d'expérience de pensée derrière la tête, donc une sorte de situation dramatique. Et après, ce qu'elle fait, c'est qu'elle attend d'avoir les personnages, donc elle rumine longuement, et une fois qu'elle a les personnages, elle lance l'histoire. Et après, elle explique dans cette émission, elle nuance tout de suite en disant que elle n'aime pas beaucoup la littérature à message, mais elle aime beaucoup la littérature à signification. Alors, ce qu'elle veut dire par là, c'est que généralement, la signification de ses romans est jamais acquise dès la première page. C'est-à-dire qu'elle crée une situation dramatique avec des personnages. Et là, on va se développer. Mais ça rejoint exactement ce que tu disais sur le fait que, finalement, les personnages vont développer des points de vue variés sur une situation initiale. Et on n'est pas effectivement dans... Le déroulement d'une démonstration, en fait, même si il y a des idées intellectuelles toujours très très fortes chez Le Guin. Alors, Sylvie, dis-nous.
Oui.
Alors, tu l'as lu, Le Nom du Monde et Forêt ?
Oui.
Et donc, on n'a pas dit de bêtises ?
Ah, pas du tout, non.
D'accord.
je l'ai lu il y a assez longtemps. Oui. J'aurais vraiment du mal à en parler beaucoup, mais ça fait partie des premiers textes d'Ursula Le Guin que j'ai lu, avec en fait les petits romans de Space Hop qui sont la Planète d'exil et Le Monde de Rocadon. C'était l'époque où elle écrivait vraiment de la science, enfin pour moi ce qui était vraiment de la science-fiction. Il y a eu un moment où elle s'est totalement écartée de cette veine-là de la SF. Ça s'est resté intéressant, c'est pas la question. Mais c'était vrai que c'était plus séduisant pour une lectrice de 14 ans ou 13 ans, ou 15.
Oui, en fait, Le Guin, donc, c'est une romancière américaine qui a été active littérairement de 1964 jusqu'en 2010, même si elle est décédée en 2018. Alors elle a eu des publications au-delà de 2010, mais pas de fiction, de la poésie, des essais après 2010. Mais ses œuvres de fiction, elle les a publiées aux États-Unis entre 1963 et 2009 même. Je pense que sa dernière grande œuvre de fiction, c'est Lavinia. Donc 2009 aux États-Unis, 2010 en France chez La Talente. Et elle a une grande période science-fiction qui va jusqu'à la fin des années 70. Et c'est sa grande période de science-fiction qui commence par des nouvelles, puis par en 66, Le Monde de Rocanon. Alors après, la réception en France est un peu inversée parce que Rocanon a été traduit après ces deux grands romans qui étaient La main gauche de la nuit et Les dépossédés. Mais voilà, donc oui, toi, tu es plus lectrice de Le Guin, romancière de science-fiction.
Naturellement, oui, je suis plutôt attirée par cet aspect-là. J'aime beaucoup les poèmes que j'ai lus aussi me plaisent beaucoup. Je suis plus attirée par les formes courtes de toute façon. Donc voilà.
Et quel est le texte que toi tu nous proposais de lire ?
Et donc justement, c'est un extrait d'une nouvelle. C'est une nouvelle qui se situe après, ou du moins à côté, mais dans le monde de La main gauche de la nuit. Et donc qui nous fait rentrer dans la façon dont vivent les habitants de Gethen. Et les habitants de Gethen sont hermaphrodites. Et ils connaissent une période d'activité sexuelle cyclique. Et à ce moment-là, ils peuvent manifester un somatype masculin ou féminin. Et dans cette nouvelle, on rentre dans leur vie quotidienne, pour ainsi dire. Et donc là, c'est une jeune personne qui raconte la première fois de sa vie où il est entré en kéma, c'est-à-dire où il a connu cette période d'activité sexuelle, alors que jusqu'à présent, ben, il était un enfant. Il ou elle était un enfant. J'ai déjà eu beaucoup de mal à raconter cette histoire dans une langue qui ne comporte pas de pronoms de soma, mais uniquement des pronoms de genre. Dans leurs dernières années de kéma, alors que l'équilibre hormonal se modifie, la plupart des gens deviennent généralement des hommes dans le kéma. Les kémas de Dory, c'est un personnage qui connaît un ami, qui justement est âgé et qui fête le fait qu'il entre dans la période de sa vie où il n'y aura plus de kéma, c'est l'équivalent de notre ménopause, par exemple. Les kémas de Dory ayant été mal depuis plus d'un an, j'appellerai donc Dory il, même si, bien sûr, le fond de l'affaire est justement qu'il ne serait plus jamais il ni elle. Quoi qu'il en soit, sa fête fut extraordinaire. Il avait invité tous les habitants du foyer, ainsi que ceux des deux foyers des Reb voisins, et la fête dura trois jours. L'hiver avait été long et le printemps tardif et froid. Les gens étaient prêts pour quelque chose de nouveau, quelque chose de chaud. Nous fîmes la cuisine pendant une semaine et une réserve entière fut remplie de flux de fûts de bière. De nombreuses personnes qui étaient en train de sortir du cycle de kéma ou qui l'avaient déjà quitté mais n'avaient rien fait de particulier vinrent se joindre à la cérémonie. C'est ce dont je me souviens le plus distinctement dans le grand hall central à trois étages de notre foyer, à la lueur des feux. Un cercle d'une trentaine de personnes, toutes d'âge mûr ou encore plus âgées, chantant et dansant au rythme des tambours. Elles étaient animées d'une énergie féroce, agitant leurs chevelures grises nez douées, frappant le sol de leurs pieds comme si elles voulaient le défoncer. Leur voix était grave et forte et elles riaient. Les habitants plus jeunes qui les regardaient paraissaient pâles et indistincts. Je regardais les danseurs et je me demandais pourquoi sont-ils heureux ? Ne sont-ils pas vieux ? Pourquoi agissent-ils comme s'ils étaient libérés ? Quel effet cela fait-il donc, le kéma ? Non, je n'avais jamais beaucoup pensé au kéma jusque-là. À quoi cela m'aurait-il servi ? Jusqu'à ce que nous atteignions la puberté, nous n'avions ni genre ni sexualité. Nos hormones ne nous posent aucun problème. Et dans un foyer urbain, nous ne voyons jamais d'adultes en face de Kema. Ils distribuent des baisers et s'en vont. Où est Maba ? Dans la maison de Kema, mon ange. Maintenant, mange ta bouillie. Quand est-ce que Maba revient ? Bientôt, mon ange. Et deux jours après, Maba revient, l'air assoupi et brillant et frais et épuisé. C'est comme de prendre un bain, Maba ? Oui, c'est un peu ça, mon ange. Et qu'est-ce que tu as fait de beau pendant que j'étais partie ? Bien sûr, nous jouions au Kema quand nous avions 7 ou 8 ans. Là, c'est la maison de Kema et c'est moi qui fais la femme. Non, c'est moi. Non, c'est moi. C'est moi qui l'ai dit le premier. Et nous nous frottions et nous frottions nos corps l'un contre l'autre et nous roulions pêle-mêle en riant. Et ensuite, nous mettions peut-être une balle sous notre chemise et nous étions enceintes. Et puis nous accouchions et nous jouions alors à attraper la balle. Les enfants jouent toujours à imiter les adultes. Mais le jeu de Kema n'était pas vraiment un très bon jeu. Il se terminait souvent par une séance de chatouille. Et la plupart des enfants ne sont pas très chatouilleux. Pas avant qu'ils n'atteignent l'âge de la puberté.
Voilà. Merci.
Et donc, j'aime particulièrement cette nouvelle parce que ça nous plonge dans l'univers de ces gens et dans leur civilisation, dans la façon dont ça fonctionne. Et ils ont une physiologie qui n'est pas la nôtre. Donc, et la façon dont elle le décrit est absolument merveilleuse. Là, c'est juste au début. Mais après, il va justement entrer dans la maison de Kema, où en fait, ils sont en activité sexuelle pour la première fois de leur vie, et où il se passe des choses. Et c'est décrit avec une délicatesse et avec une pudeur et en même temps une sensualité. C'est vraiment un des textes que je préfère parce que c'est celui qui fait toucher du doigt une autre façon de vivre, une autre façon de penser ou de considérer les sexes et les genres et ce genre de choses. Et j'étais très contente quand elle a écrit cette nouvelle parce que je l'ai lue. En fait, j'avais lu La main gauche de la nuit quand j'étais ado, et cette nouvelle-là, elle date du milieu des années 90, donc je l'ai lue, mais bien, bien, bien longtemps. Après, dans la préface, elle explique que le narrateur de La main gauche de la nuit n'était pas le genre de personnage qui allait raconter ce genre de choses intimes. Donc il n'y avait pas de scène comme ça dans le roman. Et je trouve vraiment très chouette qu'elle l'ait fait dans cette nouvelle. Qui est parue, alors je ne voudrais pas vous dire de bêtises, dans un recueil qui s'appelle L'anniversaire du monde, qui est en annuaire de main et qui a une édition en poche également.
Oui, en fait, un tout petit point de détail, c'est souvent quand on entend parler d'un auteur ou d'une autrice, on lui accole des adjectifs comme si son œuvre c'était un bloc unique, extrêmement cohérent intellectuellement. Alors chez Le Guin, il y a des lignes de force qui viennent de très très loin, mais il y a aussi des sujets sur lesquels on voit une inflexion de Le Guin avec le temps, et d'une certaine façon, que ce soit sur le monde de Terre-Mère, qui est donc entre guillemets son monde de fantaisie, ou le monde de l'écumène auquel appartient le texte que Sylvie vient de lire, c'est des mondes vers lesquels Le Guin, tout au cours de sa carrière de romancière, est revenu et les a comme amendés. Et il y a une question notamment qui est très importante chez Le Guin, sur laquelle il y a une évolution progressive, c'est la question du féminisme, parce qu'elle-même ne se perçoit pas initialement comme féministe, et elle va revenir sur la question du féminisme et la question du genre beaucoup plus tard. Elle va y revenir à la fois dans une réflexion linguistique sur il ou elle, par exemple, sur laquelle elle évolue. Et effectivement, ça, c'est, pour moi, c'est presque parallèle au travail qu'elle va faire sur Terre-Mère, de revenir à Terre-Mère après avoir fait un premier cycle de Terre-Mère, de le compléter par un deuxième cycle.
Et ce qui est intéressant, alors là, c'est pas l'objet, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a dit, par exemple, que oui, effectivement, quand elle a écrit La main gauche de la nuit, elle n'a pas pensé, elle n'a pas utilisé des pronoms particuliers, ce qui fait que les Guéténiens sont mal. C'est « he », alors qu'en fait, ça devrait être « yel », si on utilisait par exemple certaines conventions de la langue inclusive, puisqu'ils sont ni l'un ni l'autre. Ils sont ni mal ni fenêtre, et ils sont les deux, puisqu'ils ont la possibilité d'être les deux au moment où ils rencontrent quelqu'un quand ils sont en kéma. Et parce que bon, à l'époque à laquelle elle a écrit, toutes ces réflexions n'existaient pas encore, et du coup elle l'a pas fait, mais elle l'a regretté. J'ai lu la nouvelle en anglais au départ. C'est la première fois que je lisais la version en français, ce qui fait que maintenant, si je voulais en parler à nouveau, il faudrait que je compare les deux, que je vous fasse un cours. Mais bon, c'est pas l'objet.
Oui. Non, enfin, on peut dire après, peut-être. Oui.
Pardon ?
Non, je peux parler après. Hein, si.
Ah non, mais vas-y. Non,
mais il y a quelque chose que je trouvais intéressant pour parler globalement d'Ursula Le Guin, c'est que moi, ce qui m'a le plus frappé dans ses œuvres, c'est quand on lit ses textes, on se rend compte qu'on est dans une humanité en fait qui a essaimé à travers les mondes et qu'on trouve différents types d'humains sur différentes planètes. On ne sait pas exactement l'origine, en fait. On ne sait pas exactement, ça remonte aux Éniens, etc. Mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est. C'est jamais vraiment expliqué. Comment c'est arrivé? Comment cet essaimage, comment l'humanité s'est répandue en fait dans l'univers? Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que même dans par exemple, le lion du monde du forêt, ces êtres, les créates qui sont verts, c'est aussi des humains. Donc on est comme si au début de l'humanité, quand on avait différentes espèces d'humains. Et là, on se retrouve, c'est-à-dire ces humains, ces développements différents se confrontent, en fait. Ça, c'est ce qui m'a le plus frappé, en fait, dans son travail. C'est-à-dire que c'est comme, par exemple, nous, si on avait pu vivre avec différents types d'êtres humains sur Terre en même temps. Ce qu'on a évidemment peut-être connu il y a. Voilà, on ne sait pas exactement, mais peut-être que ça s'est passé. Mais en tout cas, là, il n'y a plus qu'un type d'humain. Et là, c'est ça que je trouvais. Personnellement, ce qui m'a le plus frappé, c'est ça. C'est ces différents types d'humains qui ont comme des effets fondateurs, qui ont comme sur des îles, qui ont pris des caractéristiques et les ont développées, et sont devenus des humains différents. Donc ça, ça m'a frappé justement dans La main gauche de la nuit, mais dans tous ces romans, en fait. On a toujours ces Éniens, les Terriens, ceux qui habitent sur Aka, ils sont tous un peu légèrement différents, et ça remonte à une migration qui date de millions d'années en arrière, en fait.
Et pour aller dans ton sens, effectivement, et c'est un point de détail, c'est qu'elle-même dit régulièrement que la construction de son monde, de ce monde du futur, pour elle, ne s'est pas faite de manière très cohérente comme on peut le trouver chez d'autres auteurs. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de population de l'univers qui se déroule sur plusieurs centaines de milliers d'années. Et il y a à la fois... Alors parfois, il est dit... qu'il y a des manipulations génétiques qui font que, selon la planète, ces humains vont avoir des caractéristiques différentes. Et puis parfois, il est dit que c'est plutôt tout simplement les mécanismes évolutionnistes qu'on connaît. Alors, on les connaît plus chez les oiseaux, par exemple, avec la théorie des isolats. La théorie des isolats, c'est lors des migrations des oiseaux qui se retrouvent isolés du groupe et qui sont sur une petite île au milieu de l'océan, peuvent développer des caractéristiques qui leur sont propres, qui les isolent du groupe en termes d'espèces, sauf que ça reste toujours des cousins des autres. Et alors, en plus... On s'est très peu concerté pour choisir nos textes de manière à se laisser la plus grande liberté possible. Mais ce qui est cocasse, c'est que dans vos deux textes, il y a un trait commun qui est un trait important chez Le Guin, mais qu'on relève peut-être pas assez. C'est que c'est des textes qui, à mon avis, sont l'écho de sa connaissance des peuples premiers. Sylvie.
Oui, elle était la fille. C'est son père qui était
son père et sa mère, les deux étaient anthropologues.
Qui était anthropologue. Et si vous voulez lire un texte anthropologique absolu d'une beauté, d'une tristesse absolue, c'est la vie de Ishi. C'est sa mère qui l'a écrit. Et en fait, ça raconte la vie du dernier membre d'une tribu d'Indiens en Californie, Et à un moment, ce type s'est retrouvé seul, parce que tous les autres étaient morts de diverses façons, parce qu'ils ont été massacrés, parce qu'on leur a piqué leur territoire, etc., et leur façon de vivre. C'est absolument poignant, et c'est une des choses les plus extraordinaires que j'ai lues sur le sujet. Et effectivement, elle a une approche anthropologique et une approche des peuples qui est moins novatrice maintenant, mais quand elle l'a fait elle dans les années 70, c'était tout à fait nouveau d'avoir autant d'attention aux détails et d'intérêt pour d'autres formes d'humanité ou d'autres formes de civilisation.
Oui, parce que le Gwyn, en fait, ses parents sont plutôt originaires de l'Est des États-Unis. Ses parents sont rencontrés à Columbia, où le père de le Gwyn était professeur d'anthropologie. On dit parfois que c'est le premier anthropologue américain. Alors, c'est pas exactement le premier anthropologue américain. C'est le premier à avoir un vrai diplôme d'anthropologie, puisque le diplôme d'anthropologie est plus ou moins créé pour lui. Et le département d'anthropologie de l'Université de Columbia à New York va se créer autour de lui. Parmi ses premières étudiantes, il va avoir la mère de Le Guin. D'ailleurs, dans Ursula K. Le Guin, elle demandait toujours à ce qu'on dise K. Et le K n'est pas un prénom, c'est le nom de ses parents qu'elle tient toujours à rappeler. Donc c'est Kruber. Et alors, ils sont originaires de la côte Est, mais en fait, ils vont migrer vers la côte Ouest, où elle va naître à Berkeley et elle va grandir. Berkeley, c'est grosso modo au milieu de la Californie. Le père d'Ursula va connaître pendant très très longtemps ce représentant d'un peuple premier qui est Ishi. Alors, Le Guin elle-même ne va pas connaître Ishi, mais la mère de Le Guin, qui aura longtemps fréquenté Ishi, va lui consacrer deux livres qui seront des succès à l'époque, parce que la famille Le Guin, enfin Kruber puis Le Guin, s'intéresse assez tôt à cette question-là, alors que dans les années 20, 30, 40, c'est un sujet qui n'est pas évoqué. C'est-à-dire que même si, par exemple, dans les années 50, 60, il y a cette réflexion pour essayer de créer une Amérique plus, entre guillemets, inclusive, les peuples premiers restent encore exclus de ce grand récit national. Un des premiers discours qui mentionne les peuples premiers comme étant membres de l'identité américaine, c'est un discours de Kennedy. Donc on est au début des années 60. Et sur l'anthropologie, alors ça me fait toujours penser à quelque chose, c'est que souvent on pense qu'en dans science-fiction, il y a science. Et quelle est la science chez Le Guin? Parfois, je me dis que la science chez Le Guin, c'est l'anthropologie. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans l'espace, donc il y a sans doute un moyen de traverser l'espace, de communiquer à travers l'espace, qui repose sur une technologie imaginaire. Mais l'endroit où se font les expériences de pensée, c'est dans l'anthropologie. C'est-à-dire, on prend comme expérience de pensée un l'être humain, et on lui retire une caractéristique et on voit ce qui reste de l'être humain si on change cette caractéristique, c'est-à-dire si on change son identité de genre, si on change son rapport à la propriété, comme dans Les Dépossédés, et on voit ce qui reste de l'être humain. Je vais peut-être lire mon passage. Alors, on s'était pas concerté, mais ça tombe très bien finalement que mon passage soit le troisième qu'on va lire. Alors, ce que je vous propose d'écouter, alors c'est un extrait très court, parce que le texte est découpé ainsi, c'est l'ouverture du collier de Semlé. Le collier de Semlé, c'est un texte que Le Guin a écrit en 63, qu'elle a publié en 64. C'est parmi les toutes premières nouvelles qu'elle a pu écrire. Et en fait, c'est la nouvelle qui lui a donné l'idée du roman Le Monde de Rocannon, qui est son tout premier roman. Comment discerner la légende de la réalité sur des mondes dont tant d'années nous séparent? Planètes sans nom que leurs habitants appellent le monde, planètes sans histoire dont les mythes se nourrissent du passé. à telle enseigne qu'un explorateur revenant, après quelques années d'absence, s'aperçoit que ses actions antérieures sont devenues des postures divines. La déraison assombrit cette brèche creusée dans le temps et annihilée par nos vaisseaux aussi rapides que la lumière. Et dans les ténèbres, l'incertitude et la démesure poussent comme des herbes folles. Raconter, avec quelques années de recul, l'histoire d'un homme, simple ethnologue de la Ligue, découvrant un monde de cette sorte, anonyme et mal connu, équivaut à travailler tel l'archéologue qui, parmi les ruines millénaires, tantôt lutte contre un enchevêtrement touffu de feuilles, de fleurs, de branchages et de vignes sauvages pour tomber soudain, brillante trouvaille, sur quelque objet géométrique, roue ou pierre angulaire polie, tantôt franchit une porte ensoleillée que rien ne distingue des autres pour voir jaillir dans l'obscurité le scintillement d'une flamme impossible, joyau étincelant, bras de femme dont on ne fait que deviner le mouvement. Comment discerner la réalité de la légende, une vérité d'une autre vérité? L'histoire de Rocanon fait ressurgir le joyau, son bleu scintillement à peine entrevu. Commençons par ses notes officielles. Et ça s'arrête là, parce que juste après, il y a les notes officielles, et on rentre vraiment dans le cœur du récit. En fait, ça tombe bien, parce que donc Rocanon, c'est une caractéristique intéressante de Le Guin, comme tant d'autres caractéristiques intéressantes, c'est que c'est une romancière qui, comme beaucoup d'Américains des années 50-60, avait lu un texte de Campbell qui s'appelle... alors Campbell, pas l'éditeur de science-fiction, mais le mythographe, donc un mythographe qui a publié en 49 un livre qui s'appelle « Le héros aux mille visages », un texte qui a été très lu aux États-Unis et qui avait comme... comment dire, comme point central de dire que quels que soient les mythes, les mythes, quelle que soit la civilisation, fonctionnaient toujours un peu de la même façon, au point qu'on peut parler de monomythe, de mythe unique des civilisations, où un héros, plutôt masculin, tout seul, va affronter une puissance extérieure en triomphe et ramène quelque chose dans son peuple qu'il a sauvé. Et Le Guin, en fait, d'une part parce qu'elle est au milieu d'un milieu d'anthropologues, elle est très très critique de Campbell, de cette approche qui est très totalisante de l'anthropologie, qui consiste à dire, au lieu de regarder précisément les différences entre les peuples, de dire où qu'on aille, c'est partout la même chose. Donc là, elle est très critique. Et elle décide au début de sa carrière de romancière de toujours veiller à ne jamais reprendre le monomythe. Donc ne pas prendre le monomythe, par exemple, on le voit dans ce texte, bah, le personnage principal va être un ethnologue, c'est-à-dire un voyageur, quelqu'un qui n'a pas d'enjeu direct, dont le travail ne consiste pas à tuer ou détruire, dont on n'attend pas de lui qu'il sauve le monde. Et voilà, je trouve ça assez touchant de se dire que c'est un des tout premiers textes de fiction de Le Guin, et ça donne déjà des grandes lignes qu'on va retrouver partout dans son œuvre. Et il y a un autre tout petit truc, c'est qui m'a frappé quand j'ai relu il y a quelques années Rocanon. Donc cette nouvelle après a été réintroduite comme un préambule à Rocanon. C'est quand vous la lisez, ben ça ressemble pas du tout à la science-fiction, ça ressemble à de la fantasy. Et je trouve ça toujours touchant parce que Le Guin fait partie des quelques romanciers et romancières qui ont rencontré un immense succès à la fois en science-fiction et en fantasy. Et curieusement, ou pas curieusement du tout, justement, le tout premier texte qu'elle, un des premiers textes qu'elle publie est un texte qui, par son régime, est à la fois un texte de fantasy et un texte de science-fiction. Pardon. Alors, je précise aussi quelque chose, c'est que si on est là, c'est que Laurence est romancière, Sylvie est traductrice, et moi en tant que romancière aussi, pardon.
Et auteur aussi.
Pardon. Je me disais, il faut pas oublier romancière, mais il faut pas oublier traductrice aussi, voilà. Et en fait, moi, j'ai contribué à une monographie sur Ursula K. Le Guin qui s'appelle Ursula K. Le Guin de l'autre côté des mots qui est publiée chez ActuSF. Laurence, je t'ai coupé la parole.
Non, moi, je voulais savoir s'il y avait peut-être des questions dans le public, voilà, avant de, puisqu'on est bientôt au terme de ce qu'il y a déjà. Voilà.
des questions, des questions ou des remarques, des remarques hein, oui, ça peut être ou des témoignages ou.
Bonjour, je voudrais vous remercier pour vos trois extraits parce que c'est vrai que j'ai pas lu Le Monde de Rocannon, mais à chaque fois vous écoutez lire des choses que moi j'avais déjà lues, ça m'a fait découvrir ce que j'avais pas vu par ailleurs, ce qui est aussi, enfin en lisant la première fois ou même la deuxième, ce qui est aussi l'intérêt de lire ces pages en public. Y a deux choses qui ont retenu mon attention sur le dernier extrait du Collier de Semlé, du coup. En parlant de Rocannon, je me suis rendu compte, ce que je n'avais pas réalisé, qu'en anglais, Rocannon, ça donne aussi Rock et Anon, donc en fait le caillou anonyme, et donc ces mondes qui n'ont pas d'autre nom que le monde. J'ai trouvé ça intéressant justement de l'entendre d'une autre voix, ça fait remarquer ça. Et puis, peut-être quelque chose qui appelle plus une réponse, dans l'extrait de Laurence Sunner du nom du monde des forêts, je me suis rendu compte, ce que j'avais pas vu pareil la première fois, que le personnage de Kiss, qui est le gentil, l'archétype gentil de l'histoire face à, je sais plus comment il s'appelle, Anderson, qui est l'archétype méchant de l'histoire, il s'inquiète beaucoup du devenir des cerfs. Et par contre, il dit les hommes ont déjà plein de distractions, et notamment les femmes envoyées par l'armée. Et ça m'a frappé d'une manière qui m'avait pas frappé ni à la première ni à la deuxième lecture, le fait que il s'inquiète énormément des cerfs, ce qui est tout à fait légitime, mais beaucoup plus des cerfs que des femmes. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Les femmes dans ce roman, elles ont, c'est juste pour divertir les hommes, hein, donc elles n'ont pas de rôle. Hein, c'est juste ça le rôle.
Oui, merci. Sur Canon, je trouve, en fait, Le Guin, il y a un aspect qu'on perçoit un peu moins bien, nous, francophones, c'est que Le Guin, c'est aussi une très grande prosatrice. Alors, c'est pas juste qu'elle a une écriture très élégante, qui est nourrie du fait que, initialement, même si elle est une grande lectrice de SF, elle a des très très fortes ambitions littéraires, des ambitions en littérature générale, des ambitions de reconnaissance intellectuelle, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui, sans être prétentieux, avait un très très grand sens de sa valeur littéraire, ce qui, clairement, pendant des années, l'a enragée parce que elle avait l'impression que sa valeur n'était pas reconnue, même si elle a été reconnue par la suite. Et quand elle-même est étudiante à Columbia, et qu'elle tente de se faire publier, on voit que son objectif est un objectif de reconnaissance par les cercles intellectuels de New York. Et l'autre chose aussi, c'est que l'œuvre la partie presque la plus étendue de l'œuvre de Le Guin, c'est la poésie, qui n'est pas traduite pour l'instant, et qui est l'occasion pour elle aussi de développer une délicatesse lexicale que n'ont pas tous les auteurs de science-fiction de son époque, qui parfois viennent de la presse, donc on a un rapport différent avec le rôle de la prose. Et donc il y a théorisé chez Le Guin, donc là on parle vraiment plus juste de son tact, mais on parle vraiment de quelque chose de très quasi idéologique, une réflexion sur le rôle des mots, en fait, sur le rôle des noms aussi, comment on nomme quelque chose. Voilà, alors, c'est très connu dans Terre-Mère, mais ça apparaît dans tous ses romans. Et en fait, tout à l'heure je mentionnais l'anthropologie, c'est qu'on parle parfois des blessures que l'histoire apporte à la conscience humaine, c'est-à-dire de se rendre compte qu'on n'est pas le centre du système solaire, se rendre compte qu'il y a quelque chose comme l'inconscient en nous. Alors à chaque fois, c'est des sortes de révolutions coperniciennes où on chute, et la prochaine révolution copernicienne, la révolution qu'on voit toujours dans les romans de science-fiction, c'est le moment où on se rend compte qu'on est juste un peuple au sein de l'univers et qu'il y en a d'autres. Et c'est le moment où, en fait, notre monde, au lieu d'être le monde, bah, il prend un nom, les autres le nomment. Et la question, c'est toujours, est-ce que c'est vous qui nommez votre propre monde, ou est-ce que c'est les autres explorateurs qui lui donnent un nom ? C'est quelque chose qui revient souvent chez Le Guin, sur le fait que la plupart de ces mondes ont toujours deux noms. C'est-à-dire le nom de la population locale et le nom que les explorateurs lui donnent. Et effectivement, Rocannon, ça peut être entendu aussi comme un caillou sans nom, quoi. C'est... Enfin, après, le nomastique chez Le Guin, c'est quelque chose de très, très touffu, mais c'est effectivement une explication possible.
Merci beaucoup pour ces présentations, ces choix de texte. J'ai été frappé par le texte lu par Sylvie Denis et une nouvelle dont j'ignorais l'existence sur qui présente finalement de l'intérieur le Khema, Khmer en anglais, et alors que j'avais été frappé par le point de vue finalement extérieur qu'il y avait dans La main gauche de la nuit. Finalement, autant ça fonctionne d'un point de vue anthropologique, autant ça met vraiment très à distance, finalement. Et ma question est la suivante, c'est, du coup, j'ai du mal à me repérer dans l'histoire de l'écriture de Le Guin, et je me demande s'il y a eu une évolution de sa part par rapport à ce positionnement, disons, du regard extérieur, de l'ethnologie, de la posture de la découverte un peu du point de vue d'un regard un peu colonial, vers une intériorisation, parce que je repense aussi à la façon dont dans Terre-Mère il y a eu ces réécritures. Et voilà, c'est David Meulemans évoquait le fait qu'il y avait eu une prise de conscience progressive potentiellement de ce qu'un engagement féministe pourrait avoir. Et est-ce que en gros c'est quelque chose qui est présent dès le départ, une alternance entre un positionnement intériorisé et un point de vue ethnologue, ou est-ce qu'il y a une évolution dans son écriture?
Dans La main gauche de la nuit, on a quand même le point de vue du guéténien. Mais c'est pas lui, le roman est pas la première personne, alors que ce texte-là, il est vraiment effectivement à la première personne. Donc ça change tout.
C'est vrai qu'il n'en parle pas beaucoup non plus. Il y a juste un moment donné où il y a une expérience de Khema, mais autrement...
Ah oui, on ne rentre pas dedans. Tandis que là, il y a la maison de Khema et on voit ce qui... Là, j'ai lu que le début, mais on voit vraiment ce qui s'y passe, quel effet ça fait de devenir un adulte et tout ça. Oui. Après, d'en tirer des généralisations sur l'évolution de ton titre, j'aurais vraiment beaucoup de mal... maintenant.
Après, on peut dire que ça reste quand même une romancière, c'est-à-dire avec cette habitude de ce qui distingue ce qui fait le roman, ce qui fait l'épaisseur de la fiction, c'est la pluralité des points de vue dans le même récit. Donc, par exemple, dans Les Dépossédés, on se trouve dans une situation où les différents points de vue sont exposés de manière plus nette. Mais c'est aussi parce que Les Dépossédés, finalement, le dispositif, c'est que la variation entre les deux peuples, l'écart, c'est un écart de 200 ans uniquement. Donc en fait, ils conservent des points communs, ils conservent une jonction historique, c'est-à-dire ils se souviennent du moment historique où ils ont décidé de se répartir les deux planètes et de se autour de deux systèmes politiques différents. Donc elle a... mais on est très très loin en fait de quelque chose qui est très récent pour nous, comme un courant littéraire comme le On Voice ou voilà, on est encore très très loin de ça, parce que effectivement il y a un pli souvent du récit d'exploration, du récit d'ethnologue, avec cette nuance que ça reste une romancière quand même. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a eu une très forte évolution à partir des années 90. Je pense que c'est lié aussi au statut qu'a pris Le Guin dans les années 80 aux États-Unis. C'est une romancière qui a été très très vite reconnue. C'est une romancière qui a eu beaucoup de mal à être publiée. Mais quand elle a été publiée, elle a été très vite reconnue. Elle a eu une décennie des années 70, qui est une décennie où toutes les récompenses de la science-fiction et de la fantasy pleuvent sur elle. Et en fait, dans les années 80, il s'est passé quelque chose d'assez particulier. C'est que d'une certaine façon, son lectorat s'est étendu nettement au-delà du lectorat SF et fantasy. Alors avec une nuance... qui est que Terre-Mère a été très vite lu dans les universités américaines par les étudiants. Donc Terre-Mère avait déjà un public qui était au-delà du public qu'on qualifierait aujourd'hui de public d'imaginaire. Mais dans les années 80, par exemple, c'est un détail, mais dans les années 80-90, elle a gagné tous les grands prix des bibliothèques américaines. Et pour le coup, c'était des bibliothèques qui donnaient des prix, qui étaient des prix enfin, pour gagner les prix des bibliothèques américaines, c'est que c'est pas des gens qui sont très, à l'époque, très, c'est pas des avant-gardes, en fait. C'est-à-dire que quand ils adoubent quelqu'un, c'est un auteur qui est multi-reconnu. Et en fait, elle est à ce moment-là invitée à avoir beaucoup de prises de parole, publiques, qui l'amène à réfléchir sur son œuvre. Et ce que je disais tout à l'heure sur, au début, elle part dans un de ses projets, c'est de faire l'anti-Campbell. Mais le moment où elle théorise ça, c'est 1984, en fait. C'est-à-dire c'est en 1984-1986 qu'elle fait une théorisation de toute sa pratique sur les 20 années qui ont précédé. Et donc là, il y a un vrai tournant qui se fait autour du moment où elle rédige ce texte qu'on appelle en France le texte sur la théorie de la fiction panier, qui n'est pas en fait un programme d'écriture qu'elle a déterminé en 1963 pour les années qui suivent, mais qui est en fait une théorie rétrospective en fait pour qualifier ce qu'elle a fait et pour qualifier là où, d'après elle, vers où les écrivains doivent aller. Donc il y a une vraie rupture qui se fait dans les années 80, qui est à la fois parce qu'elle finit un cycle de lecture, d'écriture, qu'elle a cette reconnaissance publique et qu'elle est amenée à théoriser en permanence ce qu'elle produit. Et je me rends compte qu'on doit vous rendre votre liberté. Mes camarades autrices sont en dédicace cet après-midi à la librairie du Palais. Comment on appelle cette librairie ? La plus grande librairie imaginaire du monde. Voilà. Pas de France.
Librairie de la galaxie.
Ah, la librairie de la galaxie, voilà. Ah oui, alors je pensais que le monde c'était déjà trop, mais alors librairie de la galaxie, voilà. Et donc, merci beaucoup, lisez Ursula Le Guin, Ursula K. Le Guin. Et à la prochaine.
Merci. Juste une chose, dédicace Sylvie Denis à 17h. Moi, je suis tout de suite en dédicace maintenant, mais Sylvie Denis sera à partir de 17h. Comme ça, c'est...
Futur, littérature, cybernétique, avenir, prospective, science-fiction, liberté, utopie.
We can face any future.
Any future.
Any future.
Le podcast des Utopiales. Utopiales 2021.